existe des danses qui rassemblent, qui racontent des histoires, une terre, une mémoire, une culture transmise de génération en génération. La Dapke est de celle-là. Dans le cadre de la 10e édition du festival Le Temps d'une Lune, l'association Atakafa Scène Universelle Nomade organisait le 28 février dernier une soirée d'initiation, suivie d'un bal Dapke avec les artistes Rawat Saadi, Alain Migdad et la DJ Komiya. Comme on entre dans la danse, je suis allée à la rencontre de Rawat Saadi, danseur de Dapke, percussionniste, comédien et surtout un passeur de culture. Bonjour Rawat Saadi, un grand merci du temps que vous allez nous consacrer aujourd'hui pour cette interview. C'est vraiment un honneur que de vous rencontrer.
Et eh ben bonjour, c'est un honneur pour moi et merci à vous d'être présente et de me permettre de parler justement de ma danse et de cette soirée.
Alors j'aimerais commencer par vous poser cette question. Est-ce que vous vous souvenez la première fois quand vous avez dansé la Dapke et où vous étiez?
Alors je me rappelle très 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 bien. J'avais 5 ans. C'était l'été 1987. Un de mes frères, on est une grande fratrie, on est 12. Un de mes frères, il faisait du théâtre. Et donc, dans la pièce où il jouait, il devait faire de la Dapke. C'était la première fois pour moi où je rencontre, où il y a quelque chose, il saute et tout sur scène, il danse. Et je suis rentré à la maison. Donc, j'ai assisté à la première, d'ailleurs, donc, de cette pièce. Et en rentrant à la maison, j'ai pas arrêté de danser, de faire et d'essayer, etc. Et depuis, je n'arrête pas jusqu'à là, donc je me rappelle très 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 bien de cet été-là.
Alors qu'avez-vous ressenti à ce moment-là quand vous dansiez Ça fait loin.
Alors ça fait loin, mais en fait la seule chose que je retiens en tout cas de ce petit gamin que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est la joie. Donc, s'il y a une photo qui me revient, c'est ce petit gamin qui est en train de sourire, de rigoler, de jouer, de si fier et si content en fait de ce qu'il est en train de faire.
Alors, vous êtes né dans le camp de réfugiés de Nahr el Bared du Liban. Quel rôle la danse et la musique là-bas ont-elles joué dans votre enfance?
Un grand rôle. Alors, déjà, un camp de réfugiés, en tout cas, le camp de réfugiés où je suis né, c'est un petit camp, donc 1 km². À l'époque, il y avait 35, 36 000 habitants. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunesse, etc. Et aucun espace de jeu ou autre, ne serait-ce qu'un petit terrain de foot. Du coup, la danse donc de Dapke que je pratiquais, c'était en fait le moyen justement de agrandir cet espace-là qui n'est que 1 km², de l'agrandir et voire de le dépasser et de sortir. Dans mon imagination, j'étais un peu partout, à la Lune, en France, en Europe, j'étais partout. En arabe, on dit « deniam shwasatni », c'est-à-dire que la terre entière ne me comprenait plus. Voilà, donc c'était cette liberté, cette émancipation, cette grandeur que j'avais en fait en faisant cette danse.
Alors depuis, vous êtes en France, dans le 93, près de Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, le parcours que vous avez eu en tant qu'artiste, coordinateur aussi
Oui, alors au Liban, du coup, très vite, j'ai commencé à... Enfin, il y a des associations, beaucoup d'associations, ONG, etc. Du coup, très vite, j'ai commencé à travailler sur... à faire des pièces de théâtre, chant, musique, percussion. Je suis aussi, entre autres, chanteur et percussionniste. Du coup, j'ai été repéré par l'UNRWA, donc United Nations... agency pour, la, pour faire travailler les réfugiés. Et ils m'ont proposé un poste donc, avec des petits-enfants de 5 à 8 ans. Du coup, la première année, c'était dans le même camp de réfugiés parce qu'il y avait une école francophone et moi, je parlais le français déjà très tôt. Du coup, j'ai commencé comme ça et après, donc, ils ont vu que j'ai fait 3 ou 4 pièces de théâtre, en tout cas 3 ou 4 comment dire, soirées quoi, culturelles, enfin soirées artistiques avec des que des enfants où je jouais moi aussi avec eux sur scène. Du coup, ils m'ont proposé de un autre poste, donc de coordinateur entre les écoles francophones pour les réfugiés palestiniens au Liban. Donc, il y en avait 5. Donc pendant une semaine, je passais dans toutes les écoles et je faisais donc des cours, mais aussi je formais les profs, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on me propose donc de venir en France. Donc on m'a accordé une bourse pour venir en France et étudier vraiment le théâtre pour que je revienne et que j'agrandisse encore plus cette discipline, on va dire, qui n'existe pas en fait à l'endroit. Pas que au Liban, même en Syrie ou en Irak ou en Jordanie, enfin là où il y a les réfugiés palestiniens. Du coup, j'étais le premier artiste en fait qui travaillait, voilà. Je suis venu en France, j'ai fait l'école de théâtre, donc Jacques Lecoq, et mais après en fait j'ai compris que mon poste a été donné à quelqu'un d'autre, et donc je suis resté en France. Et depuis, donc j'ai mon groupe de danse, j'ai mon groupe de musique, etc.
Vous êtes ce soir ici présent à la salle des fêtes de FIF pour une Dabke Night pour le public lillois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Dabke, comment vous la décririez avec vos mots, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette danse?
Alors, il faut tout d'abord dire que la Dabke, c'est une danse culturelle. Au départ, donc, dans les pays, on va dire, de la Grande Syrie, ou donc le Liban, la Palestine, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, on dansait tous la Dabke, chacun à sa manière. Donc, en Palestine, en tout cas, c'était à la fin, par exemple, de la cueillette des olives ou du blé, ou etc., dans les fêtes des villages, dans les fêtes de mariage, etc., etc. On est tous en ligne. On va donc de la gauche vers la droite, donc contre les aiguilles de la montre, les mains dans les mains. C'est très codé, donc les mains dans les mains, c'est toujours avec la jambe gauche que ça commence. C'est une danse qui est quand même, enfin, c'est une danse qui est quand même assez physique, on saute pas mal, il faut, voilà, assez amusante. C'est très rigolo parce que en voyageant après, donc en étant en France, j'ai pu quand même voyager un peu partout, j'ai vu que ce style de danse existe chez la plupart des marins. Donc les Grecs, ils ont ce style de danse, les Turcs, ils ont ce style de danse, les Bretons, ils ont, les Irlandais, ils ont ce style de danse, voilà, où on est vraiment en ligne, on se tient les mains ou les épaules, ou, etc. Et on tape par terre, enfin pour nous, taper par terre, c'est pour la cueillette, pour dire voilà, notre terre, etc., et pour montrer une certaine solidarité et résistance.
Elle se danse, comme vous disiez, partout, dans les mariages. J'ai pu voir quelques vidéos. Hein, voilà, par toutes les générations, hein, on voit des jeunes qui se mettent aussi au Dabke. Qu'est-ce qui rend cette danse à la fois si puissante et si énergique?
Justement, c'est le fait d'être tous là, les mains dans les mains, ou des fois en fait les mains sur les épaules des uns et des autres, ça envoie un message très fort. Donc je reviens encore une fois sur les origines, c'est que par exemple dans un mariage avant, il n'y avait pas cette histoire d'invitation, je vous convie à mon mariage. Non, non, non. Il y a un mariage, on sait que le fils de tel, il va se marier, et bah très bien, allez, on se prépare, donc on va aller, donc moi je sais par exemple cuisiner, et bah je vais aller aider à cuisiner, moi je sais faire le feu, bah je vais aller aider le feu, moi je sais faire l'électricité, etc., etc. Et bah moi je sais danser, très bien, donc je vais aller cette soirée-là, et je vais danser. Et en fait, moi, je ne représente pas moi, moi je représente toute une famille qui vient. Et donc après, le monsieur qui se marie et le papa, donc ils vont savoir, ah oui, ben voilà, il y avait tel de la famille, ta ta ta. Donc après, quand moi ou mon frère ou mon cousin, ils vont se marier, eux, ils vont tous venir, ben parce que oui, on était tous là. Et des fois, enfin des fois, la plupart des fois, ça se joue aussi entre villages et même entre villes. Et donc, voilà, donc le fait d'être là, c'est de dire, on est là. Mais c'est-à-dire, on est là, qu'est-ce qu'il y a besoin ? Vous avez besoin d'aider pour construire la maison, et ben on va construire la maison ensemble. Vous avez besoin à la cueillette la prochaine fois parce que votre fils il se marie, et ben on va à la cueillette tous. Et c'est ça en fait, c'est ça le message de solidarité qui est très fort en fait qu'on envoie en faisant la DAPKE.
C'est une expression vivante de solidarité et puis de transmission de mémoire, comme aujourd'hui vous disiez, comme un acte politique aussi, hein, un acte de résistance.
Oui, alors maintenant, donc la DAPKE, quand on la danse, bien sûr qu'il y a, je pense que vous avez entendu parler, enfin en tout cas je vous le dis, il y a l'appropriation culturelle, donc tout ce qui est cuisine, tout ce qui est musique, tout ce qui est danse, tout ce qui est même la parole qu'on parle, même les habits qu'on a, même nos maisons, etc., notre façon de faire les maisons, de les isoler, c'est pas comme en Europe, donc nous c'est autrement et c'est avec la terre qu'on fait et de la chaux, etc. Maintenant, donc, du coup, il y en a un qui a dit à un moment donné que les grands vont mourir et les petits vont oublier. Du coup, de pratiquer ça, et maintenant que je suis en train de l'enseigner à ma petite fille qui a 3 ans, c'est ça, c'est pour dire non, peut-être que les plus âgés, les aînés vont mourir, mais les plus petits ne vont pas oublier. Et donc, c'est là où aussi les autres peuples, J'ai envie de dire, on est tous un seul peuple, hein. Enfin après, voilà. Mais les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens, beaucoup les Espagnols, etc., les Suédois, ils apprennent la DAPKE justement pour dire, bah, nous aussi, on est là. Qu'est-ce qu'il faut ? On est là pour vous, on est solidaires avec vous, parce qu'il y a quand même une cause, il y a quand même une histoire, il y a quand même un peuple qu'on doit quand même épauler et protéger et... Vous voyez, donc c'est là maintenant, en fait, la DAPKE, c'est ce que je disais avant, j'étais un peu contre la nouveauté dans la DAPKE, contre la, voilà, de la mettre un peu à jour, avec du rap, etc. J'étais non. Et maintenant, je me dis, mais au contraire, quel plaisir de faire ma DAPKE, et en face, il y a un rappeur qui est en train de chanter, ou danser, ou etc., ou de hip-hop, ou autre. Quel plaisir de faire, et heureusement, je l'ai testé ici en France, de danser la DAPKE face à une ballerina ou face à la danse, ou avec, enfin, la danse classique. C'est magnifique.
Pour revenir à la DAPKE, hein, c'est beaucoup lié aussi à une tenue spécifique, hein, comme c'est un vieil héritage.
Déjà, donc, la DAPKE, donc, Jéricho, c'est une des villes les plus anciennes jamais connues. Donc, enfin, si ce n'est pas la ville la plus... Et on pense que, déjà, les gens dansaient une sorte de DAPKE à la création de Jéricho. Donc, c'est quelque chose qui vient bien avant. Après, donc, les codes qu'on a maintenant, à ce qu'il paraît, c'est plutôt 9e siècle. Donc, voilà. Après, il y a plusieurs histoires, plusieurs versions, plusieurs... voilà. Qu'est-ce qu'on porte quand on danse la DAPKE ? Il y a une grande variété. On peut donc, alors, même culturellement, si c'est un mariage, eh ben, on va mettre, les femmes vont mettre leur robe brodée, les hommes ils vont mettre ce qu'on appelle le gumbaz. C'est en fait un tissu qui est fait en harir, en soie, et avec notre keffiyeh sur la tête. Mais si c'est une cueillette, bien sûr que je ne vais pas mettre ma robe brodée. Vous savez, la robe brodée, elle prend des années. Enfin, non, pas des années, mais des mois quand même pour que la fille puisse broder sa robe. Donc non, là, on va mettre quand même d'autres habits, etc. Donc ça, on peut le changer. Maintenant, pour monter sur scène et tout, oui, bien sûr, les femmes, elles mettent leurs plus belles robes brodées, bien belles, etc., etc. Quelle musique ? Il faut juste qu'il y ait un rythme. Et comme avec la DAPKE, on tape par terre, il y a le rythme, on peut carrément danser sans instrument, on n'a besoin que de notre voix pour chanter. C'est tout. Le danseur de dabke, on l'appelle dabbik. Un vrai dabbik, il doit savoir deux choses. Bien sûr, faire la dabke, danser, connaître le rythme et savoir chanter. Sinon, c'est un peu... Voilà. Il peut, hein. Il y en a beaucoup qui réussissent, il n'y a pas de problème. Mais un vrai, il doit maîtriser les trois. La danse, le rythme et les chants. Donc, pour pouvoir maintenant animer une dabke, parce qu'il y a vraiment le premier qui va lui tout animer, etc., qui va mettre de l'ordre, etc., il doit maîtriser ces trois disciplines. Donc oui, je fais de la percussion, je chante et je sais danser. Voilà. Donc ce soir, bien sûr, je vais chanter donc, pas mal de chansons culturelles palestiniennes et autres d'ailleurs. Il y a aussi pas mal de chansons libanaises et... Après, c'est le même peuple, hein, donc voilà.
Des titres emblématiques que vous appréciez le plus?
Eh bien, Dal'ouna, justement, donc, c'est un titre donc, de chant de dabke strictement palestinien. Et Dal'ouna, ça vient du mot Aoun. Aoun, c'est à l'aide. Et souvent, on dansait, par exemple, Dal'ouna, c'était pour, au moment où on construit notre maison. Donc, on commence à chanter Dal'ouna pour dire « Venez nous aider, on commence de construire. » Et donc, les gens du village, ils viennent pour nous aider. Ça, c'est un des meilleurs, d'ailleurs, que je chante beaucoup. Et ça revient tout le temps dans mes soirées. Deuxième, c'est Yazarif. En fait, c'est une fille palestinienne qui chante son bien-aimé, qu'il appelle Yazarif, c'est-à-dire « Oh, le beau ». Et qui n'arrête pas de lui dire « Oui, viens, on s'aime, viens, on fait des enfants, viens, on fait des vies, enfin des enfants, viens, on fait une maison, viens, on va cultiver notre terre, viens, on va faire notre paradis, viens, viens. » Et elle finit par « Viens, on s'aime. » Et aussi, j'aime beaucoup chanter cette chanson. Et elle sera chantée ce soir à plusieurs reprises d'ailleurs.
Vous enseignez la dabke à la diaspora palestinienne, mais également à des personnes qui n'ont pas grandi avec cette culture. Comment réagissent-ils quand ils découvrent la dabke pour la première fois, le public, par exemple, français ou autre, hein, ou autre nationalité?
Alors, souvent, c'est des gens curieux. Donc c'est très rigolo, en fait, de voir leur tête quand ils commencent. Déjà, donc, ils apprécient le dabke, ils vont voir ça et tout. Ils vont dire « Ah tiens, pourquoi pas ?» Quand ils commencent le premier pas, ils sont tellement contents à faire. Et du coup, ils sont trop « Allez, quand est-ce qu'on va faire ? Quand est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Et qu'est-ce qu'on fait avant ?» Ils sont un peu enthousiastes de savoir c'est quoi le prochain pas et comment on fait et pourquoi. Et de comprendre les codes, pourquoi est-ce qu'on tient la main de cette manière ? Pourquoi est-ce que là, on touche l'épaule ? Pourquoi est-ce que là, on s'approche les uns des autres ? Pourquoi là ? Voilà. Ils sont et curieux et enthousiastes et excités, en fait, pour faire et en refaire encore.
Qu'est-ce que vous ressentez dans tous ces moments, voilà, collectifs, quand vous dansez, quand vous partagez avec différents publics? Parce que c'est vrai, comme vous disiez, c'est un moment de partage, de solidarité. Rawad, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
Souvent, c'est peut-être politique, mais c'est comme ça. Souvent, quand on regarde les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, mais aussi en Palestine, au Liban, en Syrie, au Soudan, enfin voilà, je pense à plein de pays, on est souvent seul, ou avec peut-être sa compagne, ou sa copine, ou voilà, on est deux, trois, max. Du coup, c'est un peu offensant, ce qu'on voit, ce qui nous arrive comme image, ce qui nous arrive comme information, c'est offensant, ça fait peur. Moi, en tout cas, ça me fait peur. Quand je fais la dabke, je me sens entouré. Et je me dis, mais en fait, non, justement, ils veulent nous faire peur. Mais en fait, au contraire, résister à ce moment-là, c'est justement être entouré de tout ce monde-là et de dire non, nous existons et nous existons. Et du coup, c'est, voilà, c'est un moment aussi de résistance et un moment de confiance et un moment de partage, comme vous dites, un moment de joie. Moi, en tout cas, ça me rassure de partager ma danse de Dabke avec le public, quel qu'il soit.
Pour terminer, hein, je vais vous laisser aussi vous préparer pour parce que vous aviez dit qu'il faut être quand même assez en forme, hein, pour danser la Dabke. Il faut quand même un bon physique. Donc, à quel public ça s'adresse?
Alors, il n'y a pas. Oui, si on veut faire, pour être honnête, hein, pour, si on veut faire de la Dabke pro, oui, vous avez vu ma silhouette, voilà. Et enfin, moi, je suis à la fin. Là, je donne le flambeau à d'autres. Par contre, la Dabke, non. Ça se pratique. Tout le monde peut danser la Dabke. Les tout petits comme les plus âgés, les fins comme les gens remplis. Il n'y a pas femmes, hommes, enceintes, je ne sais pas. Enfin, voilà. On peut toujours danser la Dabke. Déjà, la Dabke, c'est une présence. Donc, tout le monde peut danser la Dabke. Tout le monde, absolument tout le monde. Voilà, je peux vous montrer des vidéos de ma fille, elle a à peine un an et demi, elle commence déjà à taper par terre. Et je peux vous montrer des vidéos de ma mère, qui est toujours là, donc au Liban, qui a 91 ans, qui danse la Dabke. Et d'ailleurs, elle engage beaucoup de, et je lui envoie beaucoup de salutations, et elle envoie beaucoup d'énergie à 90 ans quand elle danse la Dabke. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de forme, il faut juste vouloir le faire. C'est juste une présence, la Dabke, c'est un état d'esprit.
Juste pour faire une petite dédicace à votre maman qui se trouve où exactement, au Liban?
Oui, bah alors j'envoie salam maman, j'en profite. Et maman, elle est donc toujours au camp de Nahr el Bared. Elle a vécu 3 fois une sorte de Nakba, mais elle est toujours dans le camp de Nahr el Bared qui est dans le nord de Tripoli, Liban, entre Tripoli, la ville, et les frontières avec la Syrie.
Bon, ben on la salue bien chaleureusement. Alors, vous êtes aussi comédien. Peut-être quelques mots là-dessus. Où est-ce qu'on peut venir vous voir? Qu'est-ce que vous travaillez? Vous travaillez la danse avec donc le théâtre?
Alors, du coup, j'ai fait ma formation. Après, j'ai fait 3 projets de théâtre purement. Et une comédie musicale qui s'appelle Najma, donc c'est une histoire iranienne d'une danseuse, et voilà. En ce moment, je ne monte sur scène que pour la Dabke. Donc là, je suis sur un projet de faire justement une comédie musicale de Dabke avec des musiciens et tout, mais le projet, il est toujours à la première phase, vraiment à la première phase. Espérons qu'il il verra le jour d'ici 2028. Voilà.
Bon, bah merci en tout cas pour les projets qui arrivent. Peut-être un dernier mot pour terminer notre interview. Vous êtes accompagné du musicien Alaa Miqdat. Mm-hmm. Qu'avez-vous préparé pour le public lillois?
Alors, on a préparé beaucoup de chansons de résistantes, engagées en tout cas. Donc, des chansons culturelles palestiniennes, des chansons qui viennent aussi de Liban, de la Syrie. Alain, donc, c'est voilà, aussi lui, il est musicien, enfin, il fait plusieurs instruments. Il fait entre autres le naï, donc flûte. Il fait, donc, ce soir, il va faire le synthé. Il fait aussi la luth, oud. Il a une très belle voix, donc voilà, on a quand même au moins des chansons, on a 2 heures de musique et de chansons pour animer cette soirée.
Eh bien, un grand merci à vous en tout cas, voilà, pour nous avoir partagé votre passion du Dabke. Merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Nous étions avec Rawad Saadi, danseur de Dabke, percussionniste, comédien et surtout passeur de culture. Une interview réalisée par Nathalie Duez pour les radios associatives et locales des Hauts-de-France.